France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
À 81 ans, elle monte sur scène pour un solo en hommage à Joséphine Baker, la grande danseuse et chorégraphe Germaine Acconi sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, on continue d'explorer avec vous les romans de la rentrée littéraire. Aujourd'hui, au programme, un retour dans le passé avec Finistère d'Anne Berest chez Albin Michel et une vision du futur avec Zem de Laurent Godet chez Actes Sud. Vous écoutez les midis de culture et vraiment c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et ceux qui lisent pour nous, je vous les présente. Virginie Bloch-Lenné, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière.
Bonjour Marie.
Bonjour. Antoine Léris, journaliste pour le magazine Lire.
Bonjour Marie.
Bonjour Antoine et bienvenue à tous les
deux. Merci.
Finistère, avec ce sixième roman, Anne Berest poursuit l'exploration de son histoire familiale. Dans Carte postale, parue en 2021, elle retraçait la trajectoire tragique de la branche maternelle, les Rabinovitch, juifs de Russie exilés en France pour fuir l'antisémitisme. Tous ont péri à Auschwitz en 1942. Seule sa grand-mère, Myriam, a survécu. Ici, le voyage transgénéalogique la ramène à Saint-Paul-de-Léon, coin de Bretagne, où son arrière-grand-père fonde, au début du siècle, du 20e, un syndicat d'agriculteurs. L'autrice revient sur les hommes de cette famille, le grand-père et enfin le père, entre ruralité et vie parisienne, ascension sociale et désillusion. On commence avec un avis rapide. Antoine Léris.
Eh ben, je crois qu'en fait, j'ai la clé du roman, c'est Anne Berest qui la donne elle-même. On est page 13. Elle dit « Je ne me sentais jamais naturelle avec mon grand-père. En sa présence, je ne pouvais pas m'empêcher de jouer la petite fille modèle. Et ce qui faisait de moi une enfant aux mimiques précieuses, sans naturel et sans charme. » Tout est dit.
On va y revenir, je
ouais,
pense.
Je pense à ça.
Virginie Bloch-Lenné.
Je suis assez d'accord avec... je suis complètement d'accord avec Antoine Léris. C'est un roman populaire, roman qui marche très bien, un bon roman populaire, je trouve, quand il est question de la Bretagne et de l'arrière-grand-père et du grand-père d'Anne Berest, cette ascension sociale. Là, c'est bien. Ce qui ne va pas, c'est un livre qui mêle histoire intime et grande histoire. Cette fois-ci, la grande histoire, c'est pas celle de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les trotskistes des années 70. C'est pas de la grande histoire. Ils ne font pas l'histoire. C'était dans l'air du temps. Et elle prend ça très au sérieux. Elle ne décolle jamais du premier degré. Mmh. Elle reste terre à terre. Pas d'introspection quand elle parle d'elle. Donc, voilà.
On va écouter tout de suite les premières lignes de Finistère d'Anne Berest.
Chaque été, nous quittions notre banlieue parisienne pour la Bretagne, le pays de mon père, celui où il était né, ainsi que son père et le père de son père avant lui. Le voyage débutait gare Montparnasse, sous les fresques murales de Vasarely, leurs formes répétitives, leurs motifs cinétiques, dont les couleurs saturées s'assombrissaient sous une couche noire de pollution. Mes deux sœurs et moi étions les premières d'une lignée pour qui la gare Montparnasse n'était plus une destination mais un point de départ. Les premières Berest à être nées en dehors du département du Finistère, et ce simple changement de direction inscrivait en nous une différence que les générations précédentes n'auraient pu concevoir. Je me sentais pour cette raison imperceptiblement étrangère à mon père.
Finistère d'Anne Berest chez Albin Michel et merci à Oriane Delacroix pour cette lecture. Alors Antoine Léris, on revient à cette page 13 qui pour vous est programmatique.
Mais exactement, et qui est très bien racontée dans cet extrait, qui est très bien choisi, c'est-à-dire c'est en fait ce livre une série de cartes postales. Et donc effectivement c'est plutôt agréable à lire, on a envie de tourner les pages, mais on se demande en fait à quel moment elle va réellement rentrer dans l'histoire. Et on a le sentiment que comme pour une carte postale, on s'écrit un petit mot et puis dès qu'on s'approche un peu de la vérité, vous savez, on se raconte, il fait beau, tout le monde joue, tout le monde s'amuse, et puis en fait la réalité de ce qui se passe en vacances, on l'évite et on se dit bisous, au revoir et à bientôt. Et je trouve que ce livre est constamment dans cet arrêt devant quand elle pourrait creuser une forme de vérité, alors qu'il y en a plusieurs à creuser, il y en a plusieurs à questionner. La coopérative qui a été créée par son arrière-grand-père permet aujourd'hui à la Bretagne d'être une place forte de l'industrie agroalimentaire avec des géants, des mastodontes. L'engagement trotskiste aussi de son père pourrait être questionné par rapport aux conséquences qu'ont pu avoir le communisme dans l'histoire. Et moi, je trouve qu'il y a aussi un autre sujet qui est là, au milieu du livre, et qu'elle réussit pas à aborder, qu'elle évoque à peine, c'est justement cette trilogie, cette hérédité de l'échec, que finalement, nombreux de ses ancêtres passent à côté de l'histoire qu'on voulait leur écrire, mais pour écrire une autre histoire. Et là, je trouve que moi, il y a quelque chose d'absolument passionnant là-dedans, mais qu'encore une fois, parce que ce sont des cartes postales, elle évite. En fait, l'idée, c'est, je sais pas si vous connaissez un peu la Bretagne, mais la Bretagne, c'est très beau, le ciel est bleu, puis à un moment, les nuages arrivent, et on se dit, il va y avoir un petit grain. Et sauf qu'en fait, c'est au moment où le grain se déclenche que là, il y a quelque chose de formidable à vivre.
On est en Bretagne, là.
Exactement, voilà. Et on a l'impression qu'elle, elle rentre à la maison, se mettre au chaud au moment où il va y avoir la pluie. C'est dommage, quoi.
Ouais. Virginie Bloch-Lenné, c'est un peu la même impression.
La même impression, sauf que moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas d'aspérité dans les pages, parce qu'elle alterne les pages qui concernent la Bretagne et l'arrière-grand-père, que ce soit lisse. Parce que c'est ça, ça ne me dérange pas. Elle...
C'est du savoir-faire aussi, il y a quelque chose.
Exact, voilà. Et là, elle a un savoir-faire. D'ailleurs, les premières pages, je trouve, ont du rythme, de l'énergie. Elle avance. À un moment, elle décrit une rumeur qui se propage. Ça, elle sait vraiment le faire. Là où je trouve que l'absence de vérité devient un problème, vérité littéraire, enfin d'aspérité, d'introspection, c'est quand on arrive à son père qui en 68 est d'extrême gauche, trotskiste. Elle raconte, je trouve, aura des pâquerettes ce que c'est que le trotskisme, la différence entre les trotskistes et les maoïstes. Pourquoi il s'engage? Pour embêter son père, parce que l'engagement est dans la famille, parce que le grand-père d'Anne Berest, donc le père de son père, est devenu maire de Brest. On part donc d'un paysan, ensuite on a un professeur de latin et de grec qui devient maire de Brest, donc un notable, et son fils devient trotskiste, mais polytechnicien. Mm-hmm. Donc cet attelage-là, aussi entre la grande école et le trotskisme, elle ne l'interroge pas. Et ce qu'elle n'interroge pas non plus, elle fait du trotskisme quelque chose d'héroïque. Là, ça fonctionne pas du tout, il ne risquait rien du tout. C'était clandestin, l'organisation à laquelle il appartenait était clandestine, il ne pouvait pas en parler. Et il n'en a jamais parlé à ses filles. Donc c'est une transmission, elle vit dans un milieu intellectuel, mais ça aurait été intéressant à transmettre. Pourquoi il ne l'a pas transmis? Elle n'explique pas. Et elle aborde quelque chose qu'elle aurait pu creuser, c'est son goût pour le luxe, pour la mode.
Goût de l'autrice, la fin de d'Anne
Berest. Le goût, pardon, d'Anne Berest, oui, qui a beaucoup déplu à son père. Pourquoi elle est allée par là? Pourquoi elle dit, j'ai épousé quelqu'un qui travaille dans la finance, j'aime me maquiller, elle est, je crois, amie de la maison Chanel, et elle écrit que ses propres apparitions publiques déplaisaient à son père, si bien qu'ils se sont séparés à la fin de la vie de son père. Pourquoi elle ne se demande pas pourquoi elle est allée vers ce qui est considéré comme une futilité, mais en tout cas comme de l'agrément. Il n'y a pas beaucoup d'agrément chez ce père. Hein. Il est austère, il est taiseux, il n'est pas très agréable. Pourquoi elle est allée par là en réaction à son père? Voilà. Ça, bon.
Elle a une manière, c'est vrai. Vous parliez justement de au ras des pâquerettes pour ce qui concerne le récit, notamment la dimension historique. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait un peu l'effet de ces films avec une mauvaise reconstitution. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tous les véhicules sont exactement de la même année et tout propre. Les costumes sont exactement de la même année et tout propre. Il y a quelque chose de très figé. À un moment, c'était la mode des photographies sépia, des filtres sépia sur les téléphones. On a vraiment cette sensation-là quand elle raconte l'histoire, parce qu'elle est aussi un peu enfermée par le format qu'elle a choisi. C'est un livre long, plus de 400 pages, mais c'est un livre qu'elle a voulu facile à lire, et donc ce sont des chapitres très courts. Elle passe à chaque fois du récit historique au questionnement personnel, ce qui fait que finalement, on a d'ampleur dans aucun des deux. Et moi, là où je vous rejoins, c'est ce qu'on se pose à la fin du livre comme question, c'est quelle question elle s'est posée elle-même avant d'écrire? Parce qu'en fait, c'est ça qui nous manque fondamentalement. Ok, passer en revue la documentation sur sa famille, je peux le comprendre. Ok, la carte postale a été un succès, donc elle voulait faire ça du côté du père. Ok, mais quelle question elle s'est posée sur sa famille réellement? On n'en a aucune qui émerge, franchement.
Et le silence, alors, le silence du père, elle en fait quoi?
Rien. Elle dit c'était une organisation clandestine, donc il ne pouvait pas en parler, et puis c'était un homme taiseux, c'était un mathématicien, il travaillait sur la théorie de la bifurcation.
Qu'est-ce à dire?
Alors, ça, je vraiment, je,
ouais, c'est, non, non, elle non, essaye je de pas. L'expliquer dans
oui.
le livre, quand même.
Oui, elle essaye de l'expliquer. Mais c'était un homme qui avait son monde. Elle en fait quelqu'un de génial, très admiré par ses amis. Bon, sûrement, il était très fort. Il était polytechnicien. Mais le fait qu'il n'ait pas transmis cette histoire-là, elle rend ça légitime parce que c'était le trotskisme dans les années 70, c'est très secret, mais il n'y a plus de danger. Hein, ça fait dans les années 90, il aurait pu en parler. Et elle en fait quelque chose de grandiose, alors que, encore une fois, c'était l'air du temps. Elle aurait pu expliquer, et c'était aussi l'air du temps pour des bourgeois. Et malgré tout, cette famille est devenue une famille bourgeoise. Être maire de Brest, c'est, en tout cas, c'est être un notable, donc elle l'aurait pu fouiller par là. Ouais.
Mais Antoine Léry, c'est vrai que bon, des romans comme ça qui vont explorer les failles familiales, oui. On en a beaucoup dans cette oui. rentrée littéraire.
Et des merveilleux.
Et des très beaux, avec toujours cette façon d'aller creuser là où ça fait mal. C'est-à-dire oui. qu'on ne peut pas parler d'une histoire familiale sans qu'il... Je ne parle pas de tragédie, mais en tout cas d'une forme de drame.
En fait, c'est justement là la question que je me pose, même si évidemment il y a la mort de son père qu'elle raconte, qui est peut-être le début du désir d'écriture, mais justement c'est une rentrée où on a des exemples de récits familiaux, parfois assez insignifiants. Laurent Mauvignier fait 700 pages absolument magnifiques sur quand même pas grand-chose finalement.
Les photos disparues.
Exactement. Et donc la question n'est pas est-ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans cette lignée, parce qu'on peut faire des très beaux livres sur rien du tout. La question, c'est qu'est-ce qui la force, qu'est-ce qui la pousse, qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin d'écrire. Et je trouve que c'est ça qu'on n'arrive pas à sentir, en fait. Moi, j'arrive pas à sentir ce qu'elle a vraiment voulu écrire et les questions qu'elle se pose elle-même. Vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'elle fait du silence de son père. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle n'en fait pas grand-chose parce qu'elle n'a pas envie d'interroger, elle, son propre silence. Et c'est-à-dire qu'elle s'intègre très peu dans ce livre, finalement. Elle est spectatrice, elle est commentatrice, elle regarde les événements se dérouler, ou alors elle les découvre dans des documents, mais à aucun moment elle prend sa part dans ce récit-là. Et donc je me dis que peut-être, quelque part, ce silence de son père finit par déteindre sur elle-même, et que donc c'est un livre qui, s'il débute avec l'idée de raconter une histoire, se termine sur un silence assez étrange et assez étonnant.
Mmh. Virginie Bloch-Lenay.
Oui, elle le fait un petit peu. Elle raconte la séparation.
Elle l'évoque.
Et je me disais, mais elle va y aller là, elle va y aller, parce qu'elle, ça a été assez rude entre eux. Et il est mort donc en 2022, alors qu'elle publiait La Carte Postale. Après des années où il ne se parlait plus beaucoup, où il critiquait sa façon d'être auprès de sa mère, elle sentait que sa mère compensait, mais elle ne décrit pas ce qu'elle est quelqu'un de public, elle apparaît souvent, elle est magnifique, elle n'interroge pas ça, pourquoi elle a voulu voilà ce narcissisme, elle ne l'interroge pas. Il y a un autre problème chez Anne Berest, qu'il y avait, je trouve déjà dans La Carte Postale, c'est qu'il y a de la documentation, mais c'est une documentation qui ne va pas très loin. Mais elle nous la présente toujours. Par exemple, quand elle était petite, elle prenait le train pour aller à Brest. Alors elle explique qu'elle prenait le train Corail. On va avoir quelques paragraphes sur ce qu'était le train Corail. Ensuite, c'est le TGV. Son père a un cancer, elle va nous donner l'étymologie du cancer. Elle se sent une plouque, elle va nous expliquer quel est le sens du mot plouque. Donc il y a ça qui en fait un roman grand public, mais qui est comme, oui, peut-être une protection qu'elle met autour d'elle pour ne pas aller plus loin, pour ne pas fouiller.
Elle est un peu enfermée justement dans ce personnage d'écrivain grand public, et on comprend, elle veut donner à ses lecteurs et ses lectrices ce qu'ils attendent peut-être. Et le problème, c'est qu'on a l'impression de passer à côté du livre derrière, qui celui-là aurait pu nous passionner, parce qu'elle a un vrai talent d'écriture. Elle sait raconter les choses, elle sait nous emmener, mais en revanche, on se dit que ce roman de toutes ces failles familiales, là, aurait pu faire une très belle œuvre.
Finistère d'Anne Berest, paru le 20 août aux éditions Albin Michel, et je précise que Finistère figure dans la première sélection du prix Renaudot 2025, et Anne Berest sera l'invitée d'Arnaud Laporte dans Comme un samedi, le 4 octobre prochain.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Poète, auteur de théâtre, romancier ou qu'il soit, Laurent Godet est toujours en prise avec les grands enjeux contemporains de notre monde, dans un monde justement qui ressemble à une dystopie. On le retrouve logiquement dans une littérature qui anticipe à peine sur notre époque. Avec Zem, son nouveau roman paru chez Actes Sud, l'auteur du Soleil des Scorta retrouve Zem Spak, le personnage d'ancien flic traumatisé qu'il avait créé il y a 3 ans dans Chien 51. Nous sommes dans Maniapol, une cité absolument infernale où la vie est régie par un consortium Goltex. La découverte de 5 cadavres dans un conteneur sur le port va pousser Zem à enquêter. On commence avec un avis en quelques mots, Virginie Bloch-Lenné.
Alors, je suis restée imperméable à cet imaginaire qui se saisit de beaucoup de menaces de notre temps, les opioïdes, le trafic d'humains, l'abrutissement à cause des algorithmes, le rejet de l'étranger, il y a des personnages qui s'appellent les rebuts, pour les condenser et pour montrer ce que ça risque de donner dans quelques années. Je trouve ça... Il est doué, il écrit très bien, pas caricatural, mais froid. Je suis restée à l'extérieur, il n'y a pas de psychologie, c'est sûrement volontaire, moi ça ne me va pas.
Moi je suis entrée à fond dedans, et pourtant je n'avais pas lu Chien 51, et justement c'était un peu ça mon défi, c'était de me dire, est-ce qu'on peut lire Zem sans avoir lu Chien 51? Oui, et je crois d'autant plus oui qu'on s'évite toute la description de ce monde, et qu'on arrive dans un monde déjà existant, ce qui dans un livre de science-fiction est toujours extraordinaire.
On écoute un extrait de Zem de Laurent Godet, lu par Jules Barbier.
La plupart des hommes veulent durer. Je l'ai vu 1000 fois. Ils s'accrochent, sont prêts à supplier pour obtenir quelques jours de plus, quelques heures même, et pleurent lorsqu'ils finissent par comprendre qu'ils ne les auront pas. Moi, pas. Au moment de tout quitter, je n'ai supplié personne. Je croyais que c'était la fin. Je l'avais appelé de mes voeux. Et pourtant, je suis encore là. Je n'arrive pas à mourir. La plupart des hommes pensent que c'est une chance. Moi, je dis que c'est une malédiction.
Zem. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Zem de Laurent Godet. Virginie Bloch-Lenné, est-ce que l'univers qu'on évoquait, de cette cité, existe au moins?
Oui, alors ça, il est fort, c'est vrai, il existe, il est très visuel, c'est un univers, il est très fort. Ce n'est pas étonnant que Cédric Jiménez, enfin c'est pas étonnant, il fallait y penser. Mais donc Chien 51 qui a le même personnage, les mêmes personnages que Zem est adapté à l'écran par Cédric Jiménez, ça sortira je crois dans une quinzaine de jours,
le 15 octobre.
C'est oui, on voit cette ville, on voit les containers. Il y a même des bruits, on entend que c'est une ville assez silencieuse avec des drones qui la survolent, on peut voir les drones. Donc il est doué, Laurent Godet, il écrit très bien. Mais je n'ai pas été étonnée par ce Gotham City de Laurent Godet, ni par le personnage de Zem que l'on entend, qui prend la parole au début qui est le narrateur du début, qui est un flic comme on en connaît, c'est un flic fatigué, c'est pour ça aussi qu'il est... Bon, ça c'est expliqué dans Chien 51, mais c'est un chien fatigué, usé, triste...
En même temps,
usé,
c'est un roman noir d'anticipation, donc si le flic n'est pas fatigué...
Le contrat n'est pas respecté.
Exactement.
C'est le contrat qui n'a pas fonctionné.
C'est le contrat qui n'a pas... Oui. Le contrat est rempli, mais il n'a pas fonctionné. Peut-être que je suis insensible à toutes les... toutes ces dystopies.
Parce qu'il y a trop de codes, c'est ça?
Oui, ça déborde de codes et d'êtres métalliques, de robots. Je vois pas ce couple de flics, Salia et Zem, je ne les connais pas. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas d'évolution. Il y a une intrigue, elle est bien menée. Il faut chercher la cause de la présence de ces 5 cadavres dans ces containers. Et la cause, c'est la course à l'énergie et aux terres rares, enfin, en partie, et les opioïdes aussi. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de caractère, je trouve, pas de psychologie. Et je ne suis pas triste du tout quand Zem fond en larmes, parce qu'ils font en larmes.
Antoine Léris. Alors, moi, oui, parce que je pense que ça, c'est le décor, c'est-à-dire effectivement toutes les thématiques qui peuvent apparaître contemporaines sont abordées. Mais si on raconte ça, on passe à côté de l'événement qui ouvre le roman, un des événements qui ouvre le roman, ce sont ces bateaux chasseurs d'iceberg et qui reviennent avec un bout d'iceberg pour que tout le monde puisse profiter de l'eau. Tout le monde attend ça, enfin c'est une fête hallucinante, tout le monde attend de pouvoir boire cette eau, mais pas seulement parce que c'est de l'eau, pas seulement parce que c'est un élément liquide et qu'on en manque, parce qu'elle a le goût du temps perdu. Et moi, je trouve cette idée-là absolument magnifique. C'est une cité qui sait qu'elle n'existe plus, quelque part qu'elle est devenue fausse, qu'elle est plus qu'un décor factice, mais qui trouve dans ces icebergs, dans cette eau fondue, donc cette eau avant que les hommes ne souillent la terre, qui trouve là le goût de vivre et le goût de quelque chose de très beau. Voilà. Ça, je trouve cette idée-là magnifique. Ça me fait le même effet que la clairière chez George Orwell. Voilà. Il y a quelque chose de sublime là-dedans et là, je trouve que Laurent Godet, goncourisé, nous montre bien que, certes, il s'attaque à un genre, mais il le fait avec ses armes à lui. Après, moi, je vois un roman absolument, effectivement, décomposé, parce que ce que je trouve très drôle dans ce roman, c'est le rapport au langage. C'est-à-dire qu'on s'attend, justement, c'est donc un livre noir d'anticipation, on s'attend à ce que la langue soit un peu sale, hein, que ça... Eh ben non, pas du tout. Il ne peut pas s'empêcher, Laurent Godet. Il fait du Laurent Godet. Et donc, on a, par exemple, il sort de la voiture avec célérité. Le avec célérité répété plusieurs fois. Et ça paraît totalement incongru dans un livre noir. Et en fait, on sent que quelque part, comme il n'arrive pas à passer cette frontière, ben, il va mettre dans la bouche de son personnage féminin, à des moments, des geysers de gros mots absolument horribles, qui sortent comme ça, comme si ça le débordait. Ben, voilà, moi, toutes ces petites choses, je trouve ça assez formidable. Et moi, Zem m'a fait pleurer.
Alors c'est ce qui justement vous permet de sortir de tous ces codes. Je vois bien ce que veut dire Virginie, ouais. Quand il y a trop de clichés d'une littérature très attendue, ça peut complètement étouffer, et le style, et même l'histoire d'ailleurs.
Ouais, mais ça justement, là dans la première partie, effectivement, quand l'enquête avance, se poursuit, on a des scènes d'action, qu'il écrit très bien, il est plutôt doué pour le genre, Laurent Godet, mais j'ai l'impression que le livre change à partir du moment où, je sais pas, on peut peut-être raconter le départ.
Un petit peu, ouais.
Mais voilà, à un moment donné, Zem, Sparak, Ulysse va tenter de retrouver sa terre mère, sa terre natale, la terre où il a ses attaches. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, le roman prend vraiment une autre ampleur. Et ce que vous disiez sur l'absence de psychologie des personnages, qui effectivement sont très caricaturaux au début, mais en même temps, c'est ce qu'on attend dans un roman noir. Ben là, je trouve, prennent une ampleur un petit peu différente, quelque chose de plus grand, quelque chose qui les dépasse. Que ce soit le personnage féminin en quête de liberté, ou Zem en quête de, pareil, ce qu'on disait au début avec l'iceberg, un passé disparu.
Et Virginie, il y a cet aspect mythologique, c'est vrai qu'Antoine a évoqué, pardon.
Alors, Antoine donne très envie, tant mieux, mais avec cette eau du temps perdu,
c'est vrai que ça commence bien.
Oui, c'est très joli, ouais. Mais c'est pas... c'est un moment, ça se sent pas. Oui, d'ailleurs, le nom d'Ulysse apparaît dans le roman. Zem est Ulysse, il y a aussi Pénélope, mais... je trouve que ça s'arrête là, ce parallèle. Alors, entre Zem et Ulysse, il est connu pour écrire des romans épiques, Laurent Godet. Et c'est vrai, il crée vraiment des univers. Il met le paquet dans les noms des personnages, dans les mots. Mais l'épopée, non. Enfin, moi, ça fonctionne pas. Si ce n'est qu'il est vraiment, c'est vrai qu'il sait écrire une scène d'action. Il sait faire bouger ses personnages, faire passer d'un jour à l'autre. Il y a des scènes ratées. Le couple de flics trouve la piste de ce qui a tué les 5 cadavres en allant sur une certaine île. Là, ils entrent dans une espèce de grotte. Ils trouvent une femme très maigre qui a des plaies sur la tête, des plaies sur le corps. Ça ne va pas du tout. Et il écrit « Tout en elle a l'air d'être en souffrance ». Ben oui, donc il y a des moments... quand même où ça va pas et c'est pas là que la psychologie ou que l'émotion vient. Je trouve que on reste dans le cliché.
Alors, pour contrebalancer, juste ouais, quand l'iceberg arrive, il dit on dirait des enfants qui voient venir à eux le bout du monde. Bah, ça c'est très beau.
Oui, je trouve que c'est dans la veine des romans apocalyptiques, mais que lisent les adolescents.
On pourrait se demander est-ce que c'est un roman de plus, parce qu'on l'a déjà dit, bon, des romans d'anticipation avec les codes et tout ça, on les a. On vit dans une époque tellement dystopique qu'il a qu'à se servir quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il apporte dans ce domaine-là?
Comme tous les bons romans d'anticipation, ils nous font croire qu'on est dans un avenir incertain, et puis à chaque fois, ils nous parlent d'aujourd'hui. tourner.
Oui, ouais, pardon.
Parce que sur le contrôle des images, notamment de ce qu'on a le droit de voir ou pas, sur le fait qu'on s'inflige d'une manière masochiste des formes de violence pour avoir l'impression de vivre enfin les bastonnades que subit le personnage féminin et qui deviennent une forme d'addiction pour
c'est
elle.
C'est Fight Club, ça.
Ouais, mais c'est ça, c'est l'addiction à la violence. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte le sentiment d'urgence, le sentiment de... en fait, c'est maintenant, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et que je trouve que lui, justement, se penche sur le genre et sur la dystopie, nous dit à quel point, en fait, on est dans cette époque-là. On vit exactement, pratiquement, la pénurie de ressources, la quête d'une terre autre, puisque c'est ça, hein. Il y a cette idée à chaque fois qu'il existe un ailleurs, qu'il va exister un ailleurs, une planète B pour nous, par exemple, et que quelque part, le progrès nous amènera toujours. Il y a ce texte sur la question du progrès et le fait que, en fait, c'est un incendie, ce sont des incendies les uns après les autres. Et moi, je trouve que nous mettre en face de notre réalité ne fait jamais de mal.
Sur l'écriture, Virginie.
Oui, non, vous avez posé une bonne question. Moi, je répondrai pas comme Antoine. Qu'est-ce qu'il nous fait sentir qu'on ne voit pas encore, mais qui va arriver? Je trouve qu'il n'y a rien, parce que c'est un monde où il n'y a plus d'animaux. C'est un monde où il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus de naissance. Enfin, c'est pas dit, mais je constate que il ne parle pas d'enfants ou de famille ou de... il y a des opioïdes. Et votre question me fait penser qu'un livre comme L'heure des prédateurs, qui n'a rien à voir, de Giuliano da Empoli, fait plus sentir ce qui commence à arriver. On commence à mettre le pied dedans, mais on le voit pas très bien, qu'un roman d'anticipation comme Zem. Je connais tout, j'ai les ingrédients, il les mélange, mais je sais, le monde est pourri, l'eau va venir à manquer, et il y a des dictateurs, que ce soit les chefs d'entreprise
ou... Antoine Léris, un dernier mot peut-être pour défendre Zem.
Moi, j'aime bien cette idée de silarié, contraction de citoyen et de salarié, et j'ai quand même le sentiment qu'on est de plus en plus là-dedans. Là, je trouve qu'il met un éclairage sur ça qui me semble intéressant.
Alors, c'était Zem de Laurent Godet, paru le 20 août dernier aux éditions Actes Sud. Et comme vous le disiez, Virginie Bloch-Lenné, l'adaptation de Chien 51, qui était le tome 1, on va dire, des aventures de Zem, sort au cinéma, adapté par Cédric Jiménez, avec, alors, bonjour le casting quand même, Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos et Louis Garrel. Ce sera le 15 octobre prochain. Merci beaucoup, Virginie Bloch-Lenné. Merci Antoine Léris d'être venu dans les Midis pour nous parler de littérature. Et toutes les infos sont sur la page des Midis de Culture.